L'émission L'écran radiophonique vous présente un scénario de Jean-Pierre Junier. De Sainte-Croix. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Il y a une chose qui le chagrine, c'est qu'il a peur de ne plus savoir qui il est vraiment. Il veut absolument se souvenir qui il est, mais il se dit qu'il peut, à force d'aller d'un monde à un autre, oublier qui il est. Alors, il décide d'écrire qui il est vraiment, vraiment sa vie. Qu'il a vécu avant toute cette histoire et ce qui lui est arrivé. Il veut s'acheter un cahier et écrire tout ça pour ne pas oublier qui il est. Il s'endort satisfait de sa décision. Le lendemain matin, il va chez un papetier s'acheter un cahier à couverture en plastique souple rouge qui ne puisse pas s'abîmer et décide qu'il gardera toujours sur lui, sous sa chemise, avec un stylo à billes. Il entre chez lui, c'est-à-dire dans la chambre de son oncle, et commence à écrire sa vie et ce qui lui est arrivé. Cela le soulage de pouvoir mettre en mémoire tout ça. Désormais, tous les jours, ou plutôt tous les soirs, il écrit ce qui lui est arrivé et se relit pour pouvoir essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Comme il a prévu, il garde toujours le cahier sur lui. En réfléchissant, il pense qu'il n'y a qu'une chose qui peut que les époques, le temps, se mélangent et que l'on mélange différemment une époque de sa vie avec une autre. C'est le rêve. Des fois, on se réveille avec de l'angoisse, sans savoir pourquoi et quel rêve l'on a fait. L'angoisse est due à ce que l'on a rêvé, vécu en rêve. Il se dit, je rêve ce que je vis, ou on me fait rêver ce que je vis pour vivre à la place de Sainte-Croix. Thank you. se réveille dans la chambre qu'elle occupait chez la tante. Cela ne le surprend pas. Pourtant, il sait qu'elle est morte. Mais dans sa vie, il lui arrive tellement de choses étranges que plus rien ne le surprend. Il décide de se lever et de sortir de sa chambre pour voir s'il ne la trouve pas, comme d'habitude, assise au salon. Il se lève. Voit qu'il est nu et trouve ses vêtements sur une chaise. S'habille. Et sort de la chambre. Il retrouve le grand et long couloir sombre. Les escaliers de pierre. Qui mène au salon. Il n'y a pas de bruit. Sans hésiter, il frappe à la porte du salon. « Entrez !» lui a dit la tante. Il entre. Le salon n'est pas éclairé que par un feu de cheminée. Elle est habillée d'une robe de chambre bordeaux. Il n'est pas du tout surpris de la voir, même s'il sait qu'elle est morte, et elle non plus n'est pas surpris de le voir. Elle lui dit « Approche !» Il s'approche d'elle sans avoir peur, et une fois qu'il est près d'elle, elle lui dit « Assieds-toi en face de moi, nous allons pouvoir parler un peu tous les deux. » Il s'assoit. Je reçois très peu de visites, et lorsque j'en reçois, j'aime bien bavarder. Je me permets de te tutoyer, parce que tu fais pour ainsi dire partie de la famille, et puis tu vis avec nous des choses tellement extraordinaires qui nous rend familiers. Elle lui dit, la vie qu'on te fait vivre doit te paraître étrange, mais ce que l'on te fait vivre, c'est ce qu'aurait pu vivre de Sainte-Croix à ton âge. Toi et l'autre de Sainte-Croix, c'est qu'aurait dû faire de Sainte-Croix. Il lui demande, pourquoi faut-il que des personnes puissent vivre la vie qu'aurait dû vivre de Sainte-Croix? Elle lui répond, parce que, mais cela ne marche pas comme il le faudrait. Mais pourquoi moi? Parce qu'il y a quelque chose en toi. Quoi? Tu le sais? Non, pourquoi est-ce que de Sainte-Croix doit-il vivre par procuration? Elle ne lui dit rien. Il va lui poser la question pour savoir si elle sait comment il est mort. Lui a vu son cadavre et sait comment on l'a tué, mais il veut connaître sa version à elle. Vous savez comment il est mort? Elle ne répond pas. Vous savez où se trouve son cadavre? Elle lui dit, je ne peux pas le savoir, mais je sais pourquoi il est mort. Il lui demande, pourquoi est-ce que vous le faites ressusciter par mon intermédiaire? Puisque vous l'avez tué. Moi, Non. Comme je connais son histoire, elle est connue, j'ai son portrait, je fais partie de ceux qui veulent qu'il revive. Pourquoi est-ce que je retourne dans mon ancienne vie? Parce que vous hésitez à être de Sainte-Croix. Votre personnalité ne veut pas s'effacer et que l'autre prenne votre place. Pourquoi ces retours en arrière constants? Je me réveille dans l'une et l'autre vie, et même quelquefois chez vous. Je te l'ai dit. Comment font-ils? Comment? Il fait pour me prendre. Le hasard vous a mis sur le chemin de l'autre. Et une partie de ce transfert en deux Sainte-Croix est entrée en vous. Ça a été facile, car vous lui ressemblez et votre cerveau était libre. Cela s'est fait d'elle-même. Pourquoi est-ce que l'autre qui remplace de Sainte-Croix a dit « tuer mon ami » et m'a fait prendre pour être plus libre? Elle soupire. Je me sens fatigué. Laissez-moi et retournez dans votre chambre. Bien, madame, il se lève et retourne à sa chambre. Il sait que le lendemain, il va se réveiller dans la chambre de son oncle. Sainte-Croix, enfant, et avec le peintre. Ils posent pour le tableau. Ils sont dans un coin du salon où l'on a mis contre le mur une teinture vert bouteille. L'enfant est assis sur un tabouret et regarde face à lui. Il est habillé d'un costume marin. Le peintre est un homme d'à peu près 50 ans, de taille moyenne, un peu fort. Il a une barbe et les cheveux blancs. Il porte un costume gris. Il a près de lui une table avec ses peintures et sur le côté un chevalet avec une toile. Il dit à l'enfant, « Tournez la tête légèrement à gauche et ne bougez plus. » L'enfant tourne la tête légèrement à gauche et il voit une flamme qui lui montre quelque chose. Durant toute la pause, il ne bouge pas et ne dit rien, mais il semble être troublé par quelque chose et ses yeux ont une lumière étrange. Le peintre le remarque et lui demande « Il y a quelque chose qui vous ennuie ?» L'enfant lui répond « Non, rien. » Une fois que la pause est finie, l'enfant se retire sans rien dire. Une fois que l'enfant est parti, un homme entre dans le salon. Et va voir le peintre. Il demande au peintre. Il est grand, mince, les cheveux bruns, le visage sec, les yeux bleus profonds. Il porte une redingote marine. Donc, il demande au peintre, « Ça s'est bien passé ?» Le peintre lui répond « Il s'est passé quelque chose d'étrange. Il semblait voir quelque chose qui l'a troublé, mais il n'a rien voulu me dire ce que c'était. » L'homme lui dit « Peut-être est-ce ce qu'il devait voir. Le peintre lui dit « Peut-être ». Xavier, début du XXe siècle, est dans le grenier caché derrière le tableau qui représente 2-5-3 enfants, parce qu'il sait qu'ils vont venir ici. Cela l'excite, le met en colère, et en même temps, il en a honte de chercher à épier 2-5-3. Mais il ne peut faire autrement. Les sentiments qu'il a pour lui le forcent à l'épier parce qu'il est jaloux à en mourir. Cela fait des heures qu'il attend caché derrière le tableau. Il a chaud, très chaud. Nous sommes en été et le grenier est étouffant. Il y a aussi plein de poussière et une odeur de vieillerie qui irrite son nez. Enfin, il entend des pas dans les escaliers, des pas qui vont au grenier. Il est anxieux et a peur qu'on le trouve ici, derrière ce tableau. Il entend la porte s'ouvrir et cela le fait trembler de peur et de honte. On voit entrer Gabriel qui tient par la main de Sainte-Croix. Ils sont tous les deux adolescents, 18 ans. Elle était habillée d'une robe toute simple, d'été beige, et lui a un pantalon et une chemise blanche. Xavier voit que de Sainte-Croix a l'air très intimidé et la jeune fille décidée. Xavier tremble de peur et de honte, car il sait ce qu'il fait n'est pas bien du tout. Lorsque l'on aime une personne, on le respecte et on ne fait pas ce qu'il fait. La jeune fille, en tenant toujours par la main de Sainte-Croix, le mène au milieu du grenier où se trouve un tas de vieux vêtements à terre. Elle lâche sa main, enlève sa robe, et ses sous-vêtements, elle est nue. De Sainte-Croix semble ému et gêné. Il ne bouge pas. Elle s'allonge sur le tas de vieux vêtements. Tend la main à De Sainte-Croix. De Sainte-Croix se met à genoux et se penche vers elle. Elle en profite pour le déshabiller. Xavier, en voyant tout ça à chaud, il est ému, excité, une excitation sexuelle, mais garde malgré tout de la honte, et a honte d'être découvert. Il ne bouge pas, il n'ose à peine respirer. Il voit maintenant De Sainte-Croix qui est nue, beau comme un dieu, un ange, mais d'une très grande pureté. Sa nudité est pure. Une fois qu'elle l'a déshabillé, elle le penche contre elle. Lui, pris d'une grande excitation, se met à la caresser de partout. Sur son corps, ses cheveux, son visage, ses mains s'arrêtent sur ses petits seins bien fermes et doux. Elle s'excite. Pousse des petits cris. Vu ses cris, son excitation lui font un peu peur. Et puis elle fait le geste pour qu'il puisse entrer en elle. Tout ceci excite Xavier. Il ne désire qu'une chose, c'est être à la place de la fille. La Sainte-Croix, une fois entré en elle, ne sait plus où il en est. Il se sent pris par son plaisir. Il sue, il rit, il ne sait plus. Pour la fille, c'est la même chose. Xavier aussi sue. Il a envie. Il veut être la fille pour pouvoir posséder ce beau corps de 15 ans. Il bande et en même temps il pleure. Car il n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui possède de Sainte-Croix, mais cette fille arrogante et orgueilleuse, qui ne le mérite pas. Il pleure de jalousie et mord de plaisir pour posséder de Sainte-Croix. Enfin, de Sainte-Croix se retire et se soulève, essoufflé, en sueur, le sourire aux lèvres. La fille se soulève et le regarde avec un regard moqueur et orgueilleux. Elle doit se dire qu'elle l'a eu. On entend une voiture qui vient se garer dans le parc. De Sainte-Croix dit à Gabriel, ils sont de retour, il faut nous dépêcher de descendre. Ils se lèvent tous les deux et s'habillent en vitesse. Une fois qu'ils sont habillés, ils sont face à face. De Sainte-Croix prend dans ses bras Gabriel et l'embrasse sur les lèvres. Il est heureux. Puis, en se prenant la main, cette fois, c'est De Sainte-Croix qui conduit la jeune fille. Ils sortent du grenier. Xavier les entend descendre des escaliers. Xavier est en sueur. Il a mal. Il a vu De Sainte-Croix avec une autre personne faire ce qu'il désire le plus faire avec lui. Il pleure et en même temps désire De Sainte-Croix à cause de ce qu'il a vu. Il attend un peu, se range et sort du grenier pour aller dans sa chambre et faire celui qui a passé l'après-midi à dormir. Lorsque Xavier rencontre Gabriel, il fait l'indifférent et elle le prend pour une personne qui passe son temps enfermée dans sa chambre à étudier. Devant tout le monde, De Sainte-Croix et Gabriel jouent au bon camarade. Xavier souffre, il est pris par De Sainte-Croix et pense constamment à lui. Il souffre de le voir avec Gabriel, se promener avec elle. Ils vont dans des lieux secrets pour s'embrasser. Et le Sainte-Croix oublie Xavier qui les plie en cachette. Puis Gabriel est parti, tout simplement. Xavier a été heureux de son départ. Xavier et de Sainte-Croix sont ensemble à marcher dans le parc. Xavier lui dit tout en le prenant le bras. Pour moi, tu es mon seul ami. J'ai tellement d'affection pour toi que je serais capable de faire n'importe quoi pour toi. J'aimerais toujours être près de toi. J'aimerais que nous soyons toujours amis pour la vie. La Sainte-Croix ne dit rien. Il semble être ailleurs. Xavier en souffre et lui demande « À quoi tu penses ?» Le Sainte-Croix lui répond « Il y a une chose qui est entrée en moi et je connais des choses et cela m'empêche de faire des choses. » Xavier ne comprend pas et lui dit « Ça ne t'a pas empêché de faire l'amour avec Gabriel ?» Le Sainte-Croix aux ses épaules. Xavier souffre. Xavier souffre et pense constamment à De Sainte-Croix qui ne fait pas attention à lui. Chaque fois qu'il est près de lui dans le parc, la chambre de De Sainte-Croix au salon, De Sainte-Croix ne le voit pas. Dans la chambre de De Sainte-Croix au salon, De Sainte-Croix ne le voit pas. Xavier souffre de plus en plus. Il est pris par De Sainte-Croix et pense constamment à lui. Un jour, pour des raisons d'aménagement et de rénovation, on fait coucher De Sainte-Croix et Xavier dans la même chambre. Dans leur chambre, ils ne se parlent que très peu et pour cacher son trouble, Xavier fait celui qui étudie, mais observe De Sainte-Croix se déshabiller pour aller à la salle de bain, ce qui lui donne du désir et une grande douceur, car il sait qu'il ne pourra jamais avoir son corps. De Sainte-Croix ne semble pas faire attention à ses soupirs et Xavier se dit qu'il doit penser à Gabriel. Ils ont tous les deux un lit, mais dans la nuit, Xavier se lève pour le regarder dormir, les larmes aux yeux. Après-midi dans le parc, De Sainte-Croix demande à Xavier « J'ai un service à te demander. Pourrais-tu me mener en voiture à Granville? J'ai rendez-vous avec Gabriel. » Xavier accepte la mort dans l'âme. Xavier a une voiture, mais De Sainte-Croix n'en a pas car il ne sait pas conduire. Chose étrange, la voiture qu'il conduit est moderne et eux restent fin 19e siècle. Durant le trajet, De Sainte-Croix est assis à côté de Xavier dans la voiture et lui dit « Je te remercie de me conduire là-bas. Je sais que pour toi ce n'est pas facile de le faire. Tu sais, j'ai fini par comprendre ce que tu ressentais pour moi, tes soupirs, ta façon de me parler, de me re- Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique le scénario original de Jean-Pierre Junier de Sainte-Croix, production, mise en scène, Jean-Pierre Junier.